grand titre de ce dimanche 25 juin. En Australie, les familles des victimes des attentats de Bali de 2002 réagissent sur les accusations de meurtre et d'attaque contre des civils. Contre Ambali, le cerveau présumé de ces attentats, Ambali est prisonnier des Américains sur Guantanamo depuis 2006. À Londres, des centaines de personnes évacuées des tours à risque d'incendie. En France, séminaire de travail pour les nouveaux députés de la majorité. Les familles des victimes australiennes des attentats de Bali de 2002 saluent la décision des États-Unis de poursuivre l'Indonésien Ambali, le détenu de Guantanamo Bay, en connexion avec les attentats de 2002. Il fait face à une peine de mort aux États-Unis. Dave Byron est le père dont la fille de 15 ans a été assassinée à Bali.
Those doors get open and what comes out of those doors are those awful memories. And it's very hard to put them away again.
I wish I could do what some people have done and forgiven them. I can't forgive anybody. I can't forgive anything, anybody that's connected to that at all. I hope to pick up the pay of him so he's being executed.
Dave Byron. En Grande-Bretagne, le drame de la tour Grenfell continue à dominer l'actualité et cette fois 4000 personnes ont été évacuées des appartements considérés à risque d'incendie. À Camden, c'est ce qu'annonce la première ministre Theresa May. 27 blocs d'appartements sont à risque après des inspections effectuées par les autorités concernées. Theresa May parle de la sécurité des gens d'abord.
Now, in some cases, it's possible to take mitigating action and the fire service are content that the blocks are safe. In others, it's been necessary for people to move out on a temporary basis, and that's what happened in Camden last night. But for those Camden blocks, it wasn't just a question of the cladding. There were a number of issues that came together that meant that the fire service were concerned about those blocks and the action was taken by the local authority.
Voilà la première ministre britannique Theresa May. Le Parlement britannique cible d'une cyberattaque. Une enquête est en cours. Le ministre du Commerce international, Liam Fox, parle d'être vigilant.
We know that our public services are attacked, so it's not at all surprising that there should be an attempt to hack into parliamentary emails. And it's a warning to everybody, whether they're in Parliament or elsewhere, that they need to do everything possible to maintain their own cyber security, including having complex and therefore safer code words.
Le ministre britannique du Commerce international. Le Qatar et la crise régionale se poursuivent. Le pays est isolé et subit une forte pression politique et économique. Précision de Nicolas Falaise pour Radio France Internationale.
Le Qatar affirme qu'il étudie les demandes formulées par les pays qui ont rompu avec lui, mais les autorités de Doha estiment d'ores et déjà que la liste n'est pas raisonnable. Cette liste n'est pas destinée à combattre le terrorisme, mais à empiéter sur la souveraineté du Qatar et à s'ingérer dans sa politique étrangère, explique-t-on à Doha. Selon les informations des médias de la région, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte demandent notamment au Qatar qu'il cesse de soutenir les frères musulmans dans la région, qu'il expulse des opposants étrangers installés au Qatar, qu'il s'éloigne de l'Iran et qu'il renonce à sa coopération militaire avec la Turquie. Les Émirats Arabes Unis estiment que le Qatar devrait prendre au sérieux les exigences de ses voisins arabes. Le chef de la diplomatie émirati demande par ailleurs des garanties européennes et américaines pour faciliter une sortie de crise. Celle-ci n'est toujours pas en vue, malgré les efforts de médiation du Koweït, l'un des pays du Golfe ayant choisi de ne pas suivre l'Arabie Saoudite dans sa tentative de mettre au pas le turbulent émirat du Qatar.
Nicolas Falaise pour RFI. Le décès de Véronique Robert, journaliste franco-suisse, blessée à Mossoul en Irak lundi dernier dans l'explosion d'une mine. Deux autres journalistes, l'Ukrainien Bakhtiar Attad et le Français Stéphane Villeneuve, ont été tués aussi dans cette explosion. Elle était en reportage à Mossoul pour l'émission Envoyé spécial. Émilie Raffoul, directrice de 5 bis Productions, lui rend hommage.
Véronique était quelqu'un de très fort. C'était une très belle femme, grande, belle, très féminine. Et c'était vraiment une journaliste professionnelle des terrains de guerre. Je reviens de Bagdad là et j'ai vu l'équipe médicale américaine qui s'est occupée des interventions qu'elle a dû subir. Et les militaires américains m'ont dit à quel point ils avaient été impressionnés par la force de Véronique. Elle s'est battue mais comme une lionne et elle avait couvert énormément de combats et de conflits et voilà, elle n'a pas tenu, elle, sur ce dernier combat personnel et médical, elle n'a pas tenu.
Émilie Raffoul, directrice de 5 bis Productions. Au Vietnam, un dissident et blogueur franco-vietnamien arrêté vendredi sera expulsé vers la France. Selon les autorités vietnamiennes, ses publications portaient atteinte à la sécurité de l'État. Le reportage de Véronique Guénard pour RFI.
Ce vendredi, la police a fait irruption au domicile de Pham Minh Quang et l'a emmené en détention en précisant qu'il serait expulsé, a indiqué son épouse. Elle-même a annoncé rester au Vietnam pour s'occuper de sa mère et de son beau-frère handicapé. Ce mathématicien de 62 ans avait déjà été condamné en 2011 à 3 ans de prison, libéré mais assigné à résidence pendant 3 années. Les autorités lui reprochaient d'avoir publié 33 articles sous son nom de plume de Phan Kien Quoc qui donnaient selon elle une image fausse de l'État. Né en 1955, Pham Minh Quang avait émigré en France en 1973. Il avait rejoint le mouvement Viet Thanh, le parti pour le renouveau du Vietnam interdit par le pouvoir. 27 ans après, il était retourné vivre au Vietnam, où il enseignait les mathématiques à l'université polytechnique d'Ho Chi Minh Ville. Selon le pouvoir, ses publications sur son blog portaient atteinte à la sécurité de l'État. Fin mai, il a reçu une lettre portant le cachet du président Trai Dinh Quang, lui confirmant le retrait de sa citoyenneté vietnamienne, une décision injustifiée selon l'organisation Human Rights Watch. L'ambassade de France à Hanoï a refusé tout commentaire. Pham Minh Quang, le premier dissident à se voir retirer la nationalité vietnamienne, sera expulsé vers la France.
À ces attentats déjoués au Nigeria, attentats prévus à la fin du Ramadan, le reportage de Morgane Bonin pour RFI.
Kano, Sokoto, Kaduna et Maiduguri. Voilà les villes ciblées par les 3 suspects arrêtés par les services de sécurité nigérians. L'un des 3 hommes, appréhendé plus tôt dans la semaine, est qualifié par les autorités d'expert en explosifs. Selon les services de renseignement, plusieurs bombes devaient exploser de manière coordonnée dans des marchés, parcs et mosquées des 4 localités du nord du pays. Un arsenal a également été saisi. 8 kalachnikovs, 27 grenades, environ 800 balles et une bonbonne de gaz. La célébration de fin de Ramadan est considérée comme une période particulièrement sensible. L'an passé, des mesures de sécurité importantes avaient été prises. Si Boko Haram n'est pas cité aujourd'hui par les services de renseignement nigérians, ce genre d'opération est régulièrement perpétré par le groupe. Le week-end dernier, Boko Haram a été pointé du doigt dans des attentats suicides simultanés. 16 personnes avaient été tuées dans un camp près de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Et plus au sud, un village avait été pris pour cible. 5 personnes avaient péri.
Morgane Bonin pour RFI. L'armée de l'air israélienne a riposté hier samedi après le tir de 10 projectiles de la Syrie vers la partie du plateau du Golan occupée par Israël. Depuis Jérusalem, le reportage de Michel Paul pour RFI.
Ce sont plus de 10 projectiles, pour la plupart des obus de mortier tirés à partir du territoire syrien, qui ont atterri sur le plateau du Golan contrôlé par Israël. La riposte israélienne n'a pas tardé. L'armée de l'air a frappé la position depuis laquelle les tirs étaient partis. 2 tanks appartenant au régime syrien positionnés dans la région nord du plateau ont également été ciblés, selon un porte-parole de l'armée israélienne. Côté israélien, on indique également qu'un courrier a été adressé à la force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement, la FNUOD, pour dénoncer ce qui est considéré ici comme une violation inacceptable de la souveraineté israélienne. On indique par ailleurs que par mesure de sécurité, l'armée israélienne a recommandé aux civils de s'éloigner de la zone frontalière. Les projectiles tirés depuis la Syrie se sont abattus sur une zone non habitée du versant israélien du plateau du Golan, sans faire de blessés. Il s'agirait, selon des sources militaires, de tirs perdus liés aux combats qui se déroulent entre factions syriennes. Les incidents de ce genre se sont multipliés au cours des derniers mois, entraînant à plusieurs reprises des ripostes israéliennes.
Michel Paul pour RFI. En Australie, la chef adjointe du Parti travailliste, Tania Plibersek, critique le gouvernement fédéral qui attaque le gouvernement de l'Australie méridionale qui a décidé d'introduire une taxe bancaire pour les banques.
But I think it's pretty hilarious that we've got a federal government who says that when the federal Liberals introduce a bank tax, it's sensible economic management. And when a state Labor government does it, it's the end of the world. Armageddon has arrived.
Voilà, c'était Tania Plibersek, le ministre fédéral de la Défense et de l'Industrie. Christopher Pyne dit que c'est un acte désespéré du gouvernement de l'Australie-Méridionale.
I do agree that it is another act of vandalism against the business community in South Australia by a government that's at the end of its tether, has no new ideas, can't open a hospital that's the third most expensive building in the world, and now are finding another way to hit South Australian businesses and therefore consumers.
Voilà, c'était Christopher Pyne. L'opposition fédérale continue à critiquer les examens proposés par le gouvernement fédéral pour que les gens obtiennent la nationalité australienne. Ces examens pourraient créer une sous-classe de migrants, dit Tony Burke de l'opposition fédérale.
And it sends a message to two groups of people. It creates a situation, if you're a prospective citizen, a permanent resident, for a whole lot of those individuals, they will live their entire working life here in Australia and will never be asked to pledge allegiance to the country. And that creates a permanent underclass that we have not had in this country before. But secondly, it sends a message to any Australian who wouldn't reach university level English that if this government had a choice, they'd rather you weren't here.
Voilà, c'était Tony Burke de l'opposition fédérale. Le ministre du Trésor, Scott Morrison, s'est adressé hier au conseil du Parti libéral à Sydney, déclarant que le parti doit changer ses attitudes pour garder les électeurs, sinon au risque de voir ce qui se passe dans d'autres pays arriver aussi en Australie.
Like President Trump, Corbyn took on the role of the authentic outsider, however misguided his policies were, challenging a system that many voters did not think was serving them any longer. But there is no joy in this for Bill Shorten and Labor. Just being the opposition is not enough to qualify Labor as an authentic alternative. Bill Shorten is no political outsider, nor is he defined by his authenticity. As I said in the Parliament this week, it's no coincidence his initials are BS.
Voilà, le ministre du Trésor, Scott Morrison. Élections en Papouasie-Nouvelle-Guinée ce week-end et des élections qui vont durer jusqu'au 8 juillet prochain. 111 sièges à pourvoir. Le Premier ministre sortant Peter O'Neill s'est adressé aux électeurs malgré une chute des prix du pétrole et du gaz et la sécheresse de 2016 qui a affecté le secteur agricole. Mais selon le Premier ministre, il y a des signes positifs.
There is a substantial change in infrastructure right throughout the country. And I think that is also delivering a much better level of services to our people. And of course, continues to ensure that there is growth in our economy.
Peter O'Neill, le Premier ministre sortant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Coup d'œil météo pour ce dimanche. En Australie, Perth maximale de 17 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 14, Hobart 13, Canberra 11, Sydney 17, Brisbane 24, Cairns 27, Darwin 32 et à Alice Springs maximale de 25 degrés. Un rappel des grands titres de ce 25 juin en Australie. Les familles des victimes des attentats de Bali de 2002 réagissent sur les accusations de meurtre et d'attaque contre des civils par le cerveau présumé de ces attentats en Bali. À Londres, des centaines de personnes évacuées des tours à risque d'incendie. En France, séminaire de travail pour les nouveaux députés de la majorité. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench